L'album Opus 7, Prélude, d'Alain Lefebvre était lancé officiellement. Et avouez que ça fait du bien en ce petit samedi matin. Alors, de la Turquie de Geneviève Borne, nous passons la mer Égée pour retrouver en Grèce, en direct, et 7 heures plus tard, par rapport à nous, M. Alain Lefebvre. Bonjour Alain.
Bonjour Paul.
Madame Thérèse est là aussi.
Salut Alain. Bonjour.
Bonjour ma belle Thérèse.
Comment vas-tu?
Je suis tellement heureux de vous parler.
Alain, ben oui, on ne fait que franchir la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. D'abord, premièrement, décris-nous ton décor un peu, parce que nous, c'est encore frisquet ce matin. On a eu pas mal de froid et de neige. Quel est ton environnement en ce moment?
Ben là, aujourd'hui, je ne vais pas vous écœurer, parce que nous, en Grèce, on a peut-être eu la pire bordée de neige qu'on a eu depuis 25 ans minimum, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ça. Il y a eu une tempête de neige qui a paralysé Athènes, qui est encore en train de paralyser le nord d'Athènes et qui a paralysé le nord de la Grèce.
Voyons donc.
Et là, tranquillement, on s'en sort, mais disons que l'eau était froide.
Mais toute l'Europe a goûté à cette météo un peu, comment je dirais, exceptionnel. Et d'ailleurs, dans Opus 7, dans tes préludes, on retrouve toujours, ben de toute façon, c'est toujours ton cas, Alain, une vision du monde. Et sans dire qu'il y a un caractère pessimiste, tu es peut-être, comment je dirais bien ça, plus réflectif sur notre monde.
Inquiet?
Inquiet, peut-être, ouais. Particulièrement en cette pandémie.
Oui, parce que... Les gens ont considéré que la démocratie était un acquis éternel. Et je considère que la démocratie n'est non seulement pas un acquis éternel, mais c'est quelque chose qui est victime d'une érosion avec la montée un peu partout de mouvements populistes, avec des gens de plus en plus mécontents, avec des politiciens qui ont de plus en plus une langue de bois. Ça, c'est sans parler de ces gens qui disent beaucoup de choses et qui se contredisent. Je pense que la pandémie a été cette espèce de moment qui a fait augmenter la vitesse de l'écœurement de la population. Et je suis de ceux, Paul, et je m'arrêterai là, qui croient qu'on peut écœurer le monde jusqu'à un certain point. Mais il faut toujours se rappeler que les plus grandes révolutions sont nées de tout petit grain de sable, hein. On pense à la Révolution française, ça a été juste une taxe supplémentaire sur la farine qui a fait qu'à un moment donné, les gens disent « on n'est plus capable ». Et le disque Opus 7, c'est pas nécessairement un disque qui se veut réfléchi ou j'ai pas de message à passer. La seule chose que je réalise, c'est que peut-être qu'Opus 7 a été un peu prophétique, dans le sens que je l'ai écrit, ça fait 17-18 mois, et aujourd'hui, quand je vois les titres, que ce soit Dernier Souffle, que ce soit Clair-Obscur, je vois qu'il y a comme une prémonition, peut-être, d'un moment difficile, parce que ce qu'on vit, c'est difficile. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines de jeunes qui me téléphonent, qui me contactent, qui sont au bord, j'ose le dire, au bord du suicide, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ne voient pas la fin et le bout du tunnel, surtout dans le milieu artistique, qui est un milieu qui est perçu par nos politiciens, quels qu'ils soient, comme quelque chose qui n'est pas aussi important qu'il devrait l'être.
Alors, Alain, on va faire une courte pause parce que tu as mentionné une œuvre qui est importante, je trouve, dans Opus 7, ce dernier album. Dernier souffle, on va écouter quelques mesures. Les gens qui aiment Jacques Brel vont, en écoutant « Dernier souffle » d'Alain Lefebvre, reconnaître des mesures de la célèbre chanson de Jacques Brel, La chanson des vieux amants. Qu'est-ce que tu voulais exprimer dans Dernier souffle?
Écoute, avant que j'aille plus loin, je me permets d'avoir le micro pour t'annoncer quelque chose d'officiel. Il y a eu effectivement, et je ne veux pas rentrer dans les détails, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Il y a eu effectivement aujourd'hui la parution d'un article qui était plus ou moins délicat. Et j'essaie de m'exprimer dans le français de Molière. J'ai tout de suite donc écrit aux héritiers de Jacques Brel et je peux tout de suite te lire la réponse qu'ils m'ont envoyée, ça fait à peine une demi-heure. Ils m'ont dit « Votre message m'apprend la polémique. Votre extrait que j'avais écouté avec grand plaisir semble retirer, bref, la pétodière d'une fâcherie qui n'a aucune raison d'être. Surtout si l'on vous prête évidemment à tort, à grand tort, une intention quelconque. Votre opus est une œuvre autonome qui ne doit rien à personne et elle amusera les grincheux qui soupçonnent le mal derrière chaque note. Nous vous souhaitons le plus grand succès possible. » Et peut-être ce journaliste aura-t-il contribué, paradoxalement, à mettre vos travaux en lumière comme il mérite de l'être. Vous êtes un grand pianiste, et je vais vous dire simplement que je nommerai ni le journal, ni le journaliste, mais je vais simplement vous dire quelque chose, cher Paul et chère Thérèse. Ce journal et ce journaliste vont devoir publiquement se rétracter. Bon. Parce que je suis un bon gars, je suis gentil, j'ai été battu à l'école, j'ai été longuement battu, mais là... Ce matin, cet article est nauséabond et il ne mérite absolument pas l'attention que malheureusement il a eue. Je suis très surpris qu'un rédacteur en chef et qu'un directeur de journal aient pu laisser une telle ineptie être écrite et je suis encore plus surpris qu'un gars qui ne connaisse rien dans la musique puisse écrire des choses en détail. Alors j'arrête ma phrase là et à mon avis, je pense, Paul, que tu me connais assez pour savoir que je suis très sérieux dans ce que je dis.
Ben, ça a le mérite d'être clair, Alain.
La France Brel, qui est la fille de Jacques Brel, a co-signé la lettre, et cette lettre, il va falloir que les gens la lisent, parce que en 45 ans de carrière, je n'ai jamais imité ou entrepris d'imiter ou de vouloir imiter qui que ce soit. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Et je le répète, cet article est nauséabond et il est honteux pour un journal qui se veut sérieux.
Écoute, Alain, je suis content que tu fasses cette précision parce que j'imagine que cette lettre que tu as reçue, tu vas la publier.
Ben, c'est-à-dire, c'est bizarre qu'on parle de ça, c'est bizarre même qu'on se parle aujourd'hui, et c'est bizarre même qu'en l'espace de 24 heures, j'ai reçu une réponse aussi rapide. Les gens qui m'ont écrit, qui sont donc les éditeurs et les héritiers du fonds Brel, sont scandalisés. Point à la ligne, et ils ont dit, même à la fin de la lettre, qu'ils ont perçu mon chagrin, et effectivement, Thérèse, j'ai eu du chagrin, parce que je suis insensible, parce que je pense pas mériter un traitement. C'est sûr et certain que ce journal, en l'occurrence, depuis 6 ans, s'acharne sur moi à chaque parution. Bon, c'est leur désir, c'est leur volonté. Maintenant, vous savez, je pense que le Québec est un tout petit endroit, je pense que les artistes du Québec doivent tous et chacun survivre, et je pense qu'il est absolument audacieux de la part de gens qui écrivent de constamment, si vous voulez, donner des coups sur la tête à un Québécois qui fait que le Québec puisse être un peu visible. Je ne dis pas que je suis un grand artiste, je ne dis pas que je suis un grand compositeur. Thérèse, tu le sais, j'ai même toujours eu un peu honte de composer.
Je le sais parce qu'on a...
C'est certain que vous me poignez à un moment dans ma vie où je suis particulièrement sensible à cette chose, il n'y a absolument pas de connotation de notes et de machins qu'il a inventé de Jacques Brel. Ouais. Il y a, c'est sûr et certain, une inspiration comme tous les musiciens ont. Ça fait 48 ans que je fais de la musique. J'ai joué de la musique de tous les compositeurs. C'est sûr et certain qu'il y a des notes qui sont dans ma tête. C'est sûr et certain qu'il y a des réminiscences. Et dans cette lettre, ce monsieur très gentil me dit... Si vous ne pensez pas que certaines chansons de Jacques Brel sont du note à note du deuxième mouvement du concerto de Ravel, en voulant dire que tout le monde fait des emprunts qui sont très subtils, mais qui sont simplement une réminiscence.
Oui, mais justement, dans l'histoire de la musique classique, Alain, il y a eu ces passages où on dit ce n'est pas du copiage, ce n'est pas du piratage d'une œuvre. Il me vient à l'esprit la très, très, très belle œuvre de Gustav Holst, Les planètes. Eh bien, oui. Les planètes, tu le sais très bien, une de ces planètes, un air, a été repris et est devenu un hymne religieux en Angleterre. I vow to thee my country. Bon, on n'a pas...
Absolument, et tu as tellement raison, et je sais qu'en plus de ça, je parle à Nuridi, tu sais très très bien que l'hymne national canadien, c'est note à note le deuxième acte de la flûte enchantée de Mozart. Tu sais très bien que la Marseillaise française, qui est connue et jouée quand même relativement souvent, c'est le troisième mouvement du 20e concerto de Mozart. Alors, ce qui est un peu surprenant, Paul, et là je m'adresse aux deux journalistes que vous êtes, ce qui est un peu surprenant pour moi, c'est pourquoi pondre un article de telle sorte, alors que le disque sort et que le disque, vous le savez, est premier au palmarès partout,
oui.
Pourquoi avoir ce côté malin de vouloir dire quelque chose comme ça? Je me pose la question, ceci étant dit, oui, la lettre, et il faudra que le journal en question se rétracte.
Est-ce que...
Parce que, même si je suis un gars gentil, à un moment donné, il y a des limites à toutes dans la vie, il faut aussi, à un moment donné, arrêter le monde qui dit des niaiseries.
Est-ce que c'est plus risqué? Je parle, bien sûr, Alain, de carrière. Et on sait combien est difficile l'évolution dans le monde de la musique classique, on s'en est souvent parlé. Il y a beaucoup de jalousie, il y a des couteaux dans le dos, il y a des critiques, bref... Évoluer dans le monde de la musique classique, c'est déjà pas facile, mais est-ce qu'il est plus difficile de créer une œuvre originale ou encore de performer sur scène et de rendre une œuvre d'un grand compositeur?
Ben, c'est sûr, Paul, t'as raison. C'est sûr qu'aujourd'hui, le pianiste jeune qui va dire « j'ai envie d'enregistrer » les 32 sonates de Beethoven, ben le pauvre, il y a déjà 1000 pianistes qui ont enregistré de manière sublime ces sonates de Beethoven. Le compositeur qui veut composer, ben le compositeur qui veut composer, il faut quand même se dire une chose technique, Thérèse, c'est que la musique, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hein? Donc on a 7 notes, grosso modo, oui. Avec les dièses, les bémols, etc. Donc on peut multiplier, on peut dire on a 14 notes. Enfin, je ne jouerai pas avec les chiffres. C'est absolument impossible pour un compositeur de composer et de ne pas avoir, dans ce qu'il compose, des réminiscences. Hein, Emerson, Lake and Palmer, quand ils ont fait cette œuvre qui, à mon avis, est fantastique, qui est Picture and Exhibition, c'était les tableaux d'exposition de Moussorski. Quand King Crimson est devenu, à mon avis, un de ses plus grands groupes anglais, pour moi, ce sont des génies. Ben, ce sont des gens qui sortaient tous du Conservatoire de Londres.
Exactement.
Et qui avaient tous, dans leur bagage, la musique classique.
Formation classique, oui, tout à fait.
Absolument. Alors, moi, Paul, j'ai toujours été un patriote. Aujourd'hui, en 2021, apparemment, de dire qu'on est patriote ou qu'on est québécois ou qu'on est fier d'être québécois ou qu'on aime le Québec ou qu'on va se battre pour le Québec ou qu'on va se battre pour les jeunes artistes qui viennent et qui ont de la misère, c'est comme si c'était devenu quelque chose de profondément vulgaire. Ben, moi, aujourd'hui, sur vos ondes, je vous dis trois choses. Je suis québécois. Je suis fier d'être Québécois et j'aime le Québec. Et tous ces gens-là, tous ces pisse-vinaigres qui veulent absolument constamment abaisser ce que les gens, surtout les artistes, font au Québec, c'est honteux. Je prends simplement l'exemple d'André Gagnon, qui est un homme que j'ai profondément admiré. Quand moi j'ai vu le traitement que certains musiciens classiques ont réservé à André, j'ai toujours trouvé ça scandaleux. André était un grand monsieur, c'était un grand compositeur et c'était un homme qui avait un talent absolument fantastique.
Alors, laissons les gens savourer ce nouvel album, ouais. Opus 7.
Et je veux simplement dire que la pièce que vous entendez, je sais que tu as fait appel au célèbre interprète de bouzouki, Thanasis Polykandriotis. Alors, on l'écoute, oui, avec ton piano, Alain. Merci pour cet album,
Opus 7,
Prélude.
Et on te laisse aller avec les neiges d'Athènes.
Et c'est magnifique.
Je vous embrasse très fort.
Très bel album, on t'embrasse. Bye-bye.